Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, une émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la langue française et de la francophonie en ce week-end du 20 mars. Un plateau prestigieux dans la diversité. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est un grand poète qui s'adresse à la jeunesse en publiant deux ouvrages aux éditions Rue du Monde. Abdelatif Lahabi évoque ses années d'emprisonnement politique au Maroc et il porte un regard sur la vie et la société d'aujourd'hui. Chanteuse, auteure, compositrice et pianiste, Jeanne Chéral met ses mots et messages en musique. Elle publie un livre sur ses souvenirs et les mots qu'elle aime à la façon de Philippe Delerme. Philippe Delerme qui sera aussi avec nous pour son nouvel ouvrage, fidèle à son style, entre sagesse et optimisme, un livre qui apaise nos âmes en cette période. Et puis nous serons avec l'écrivain haïtien Néhémie Pierre Dahomé, auteur brillant, jeune auteur qui sort son deuxième roman, un conte ciselé, plein de poésie. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Dominique Bressoux représente la Suisse, libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
En Belgique, il y a Nathalie Clairin, libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous? Oui, ça a l'air.
Très bien, merci.
Au Canada, c'est Katia Courteau qui est libraire à Montréal dans la librairie Le Port de Tête. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aputo dans la librairie Lamandier. Vous représentez la France, tous avec des connexions spéciales en cette période compliquée. Merci d'être avec nous. On commence avec la mort de Jean-Claude Fasquelle, l'ancien PDG des éditions Grasset qui est décédé le week-end dernier à l'âge de 90 ans. Petit-fils de l'éditeur d'Émile Zola et fils de l'éditeur de Marcel Pagnol. Les Fasquelle ont été éditeurs de père en fils. Jean-Claude a révélé lui aussi de grandes personnalités de la littérature, comme Virginie Despentes, Marc Lambron et Frédéric Becbédé. Il a aussi permis à d'autres de connaître une exposition importante dans le monde littéraire et aussi auprès du grand public. Amin Mahalouf de l'Académie française fait partie de cela. Il est avec nous aujourd'hui pour cet hommage en cette journée internationale de la langue française et de la francophonie. Bonjour Amin Mahalouf.
Bonjour Emmanuel.
Qui était Jean-Claude Fasquelle pour vous, Amin?
D'abord, c'était un ami proche. Et c'est une grande figure de l'édition en France.
Oui.
Comme vous l'avez dit, il vient d'une famille d'éditeurs et sa maison que lui-même a dirigée, qui est Grasset Fasquelle, on dit souvent Grasset simplement, mais le nom de la maison est Grasset et Fasquelle.
Oui, c'est vrai.
C'est une maison qui est toute petite et en même temps très grande. Mmh. Elle est considérée comme une des grandes maisons d'édition littéraire. Et en même temps, c'est une petite maison par la taille. Tout le monde se connaît chez Grasset. Et ça, c'est Jean-Claude qui a fait ce prestige extraordinaire de la maison.
Oui, c'est ça. Vous avez un souvenir à nous raconter avec lui? Je sais qu'il y a plein d'anecdotes avec un éditeur comme ça.
Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a un souvenir. C'était en 1993. Moi, j'avais écrit un roman qui s'appelait Le Rocher de Tanios. Mmh. Et il était en lice pour le Goncourt que j'ai obtenu donc cette année-là. Et il y avait une équipe de télé qui est allée interviewer Jean-Claude à ce propos. Et Jean-Claude détestait parler du prix avant le vote parce que il savait pas quoi dire. S'il disait qu'on va pas l'avoir, c'est un problème. S'il disait qu'on va l'avoir, ça peut créer la réaction inverse. On a connu des auteurs qui ont montré trop de confiance et les Goncourt étaient furieux et ils ne l'auront pas donné.
Oui, du coup.
Et donc il voulait pas parler. Et il a dit, vous savez, moi j'ai un rituel à la veille du Goncourt. Je vais voir la photo d'Edmond de Goncourt sur le mur de sa maison, dans le 15e, il y a une photo d'Edmond de Goncourt dédiée à mon jeune éditeur Eugène Fasquelle, qui était le grand-père de Jean-Claude, et j'allume un cierge devant l'image d'Edmond de Goncourt. Et les gens de la télé se regardaient en disant « Mais il ne doit pas être tout à fait normal, ce monsieur. » Et ils n'avaient pas compris que c'était la grande habileté de Jean-Claude de dire cela pour ne pas avoir à donner son opinion sur les chances de la maison au Goncourt.
Et à séduire du coup tous les membres du jury du prix Goncourt, c'était un peu
ça. Oui, il était merveilleux, c'était un hôte exceptionnel, sa maison était toujours ouverte, on rencontrait là-bas Gabriel Garcia Marquez, Umberto Eco, et tellement de gens, sa maison était toujours ouverte.
Il a été l'éditeur aussi d'Antonine Maillet, seule auteure québécoise à avoir reçu justement le prix Goncourt. Il portait un intérêt particulier pour la francophonie et c'est troublant de lui rendre hommage en ce week-end qui célèbre la francophonie dans le monde, Amin Mahalouf.
Oui, il a été l'éditeur d'Antonine et qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. C'est quelqu'un de merveilleux et de très généreux. Je me souviens qu'à un moment donné au Liban, il y avait des problèmes économiques comme il y en a aujourd'hui et il avait décidé de faire des éditions spéciales à un prix très réduit pour que les lecteurs francophones du Liban puissent avoir accès aux livres. D'ailleurs, nous avions fait un superbe voyage au Liban au moment où j'avais eu le prix Goncourt et les gens l'avaient adoré là-bas. Il était d'une amabilité, d'une intelligence, d'une drôlerie. C'était un homme merveilleux avec sa femme, Nikki Fasquel, qui est morte quelques mois avec lui. Vous savez qu'ils ont eu le Covid. Nikki est décédée en avril dernier. Lui a survécu 11 mois, mais il était quand même assez atteint et
fatigué,
par la maladie et par la disparition de Nikki, qui était quelqu'un de merveilleux. Ouais. Et c'était vraiment un couple inséparable.
Bon, merci beaucoup Amin Mahalouf pour cet hommage très touchant à Jean-Claude Fasquel, votre ami mort à l'âge de 90 ans. Merci beaucoup Amin.
Merci Emmanuel.
À bientôt.
À bientôt.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Queyrade.
J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui-même. Liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui ?» pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être un homme. Et bonjour Abdelatif Lahabi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ce poème que je viens de lire fait partie de votre anthologie de poèmes pour la jeunesse, paru chez Rue du Monde. En cette journée internationale de la francophonie, commencez cette émission par votre poème « Résume tout ». Dis tout, on pourrait s'arrêter là. Que pourriez-vous rajouter de plus, vous?
Je ne sais pas. À vous de me sonder.
Vous n'avez pas une idée?
Je crois que la poésie est un art qui est très exigeant. Il nous impose, j'allais dire, des valeurs éthiques. Et si on ne les respecte pas, je crois qu'on n'a pas le droit de se revendiquer en tant que poète ni en tant qu'homme.
Alors, vous avez été un jeune professeur de français au Maroc, professeur engagé justement pour la liberté. Du coup, en 1972, vous êtes arrêté et condamné à 10 ans de prison. Vous restez derrière les barreaux pendant 8 ans et vous avez écrit des poèmes pour vos proches.
Oui.
Qui sont dans cet ouvrage,
oui,
en partie.
J'ai voulu inaugurer cette petite anthologie de mes textes pour la jeunesse avec ces textes-là, parce que ça fait partie de ma vie, c'est une partie importante de ma vie. Je crois qu'elle a fondé beaucoup des valeurs que je défends. J'avais envie de partager avec la jeunesse une expérience comme celle-là.
Mais alors vous écrivez d'ailleurs à votre fille qui a 5 ans, quand on vous emprisonne, elle a 5 ans, vous lui dites « Ce n'est pas difficile un poème, c'est comme quand le soir je te serre bien fort et t'embrasse. » Un poème, c'est du réconfort, Abdelatif Lahabi.
Oui, c'est une façon de se rapprocher du cœur, disons, de sentir au même moment qu'on est ensemble, véritablement ensemble. Et que cette présence-là, elle va déterminer beaucoup de choses dans notre vie.
Le lien qu'on a avec l'enfant est en soi poétique au final. Quand on réfléchit bien, vous l'écrivez aussi à votre fils Yacine. Et le plus dur, c'était d'être loin d'eux, je suppose. Mais qu'avez-vous ressenti lorsque votre propre pays vous a enfermé parce que vous utilisiez justement la langue française et les messages, vos messages, à des fins humanistes? Qu'est-ce que vous avez ressenti là?
Une injustice profonde. Mais en même temps, c'est-à-dire le fait d'avoir subi tout cela était logique. Je crois que ces systèmes logique. Totalitaires, ces dictatures ne supportent pas l'intelligence, ne supportent pas la liberté d'esprit, ne supportent pas la critique, ne supportent pas qu'on les remette en question et en cause.
Mais à quoi peut-on croire après ça, Abdelatif ? Quand on a été enfermé comme ça pendant 8 ans, justement, on croit en quoi ?
On croit fermement encore plus à la liberté.
Eh oui.
Parce que c'est la valeur la plus fondamentale et la plus précieuse. Et donc, consentir des sacrifices pour la liberté, qui n'est pas simplement un mot. Quand on a connu cette expérience, on connaît ce qu'est la liberté, ce qu'est sa signification, et en quoi elle est fondamentale pour nous.
On va laisser la parole à nos libraires, Abdelatif Lahabi, avec la France et le Canada, qui ont lu cette anthologie de poèmes pour la jeunesse, et on commence avec Thomas Auxerre en France.
Oui, j'ai vraiment aimé sans réserve votre recueil de poèmes qui m'a tour à tour enchanté, bouleversé et fait sourire. Alors, il y a des fulgurances et en plus, cette édition est un bel objet, elle est bien pensée. Les illustrations sont superbes et puis les notes de bas de page contextualisent la rédaction des poèmes. Nous, on va le recommander pour les petits et grands à l'amandier.
Parfait. Katia Courteau au Canada, êtes-vous d'accord ?
Tout à fait, je suis d'accord avec Thomas. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette poésie que je découvre dans cette anthologie. Je trouve que d'ailleurs, c'est très bien choisi, tous ces poèmes, et ça va toucher les adolescents par la force de vos poèmes. C'est beau comme un ciel qu'on fixe la tête toujours haute, je trouve. Et les illustrations de Laurent Courvaisier aussi appuient tellement bien votre œuvre par leur profondeur et leur lumière. C'est de toute beauté.
Oui, belles illustrations, effectivement. Abdelatif Lahabi, voilà, vous avez séduit nos libraires. Vous questionnez aussi la notion du genre dans la langue française. Dans un poème, vous écrivez, par provocation, « Elle était une fois, au lieu d'il était une fois, quelle heure est-elle ? Bientôt, elle fera nuit, pourvu qu'elle ne pleuve pas des cordes, ou encore, elle était temps. » Vous ne comprenez pas, comme ça, le parti pris masculin de la langue.
Oui, la langue française n'est pas la seule à être de ce machisme crasse, si j'ose dire. Toutes les langues sont machistes. Incroyable, mais le machisme a aussi imprégné la langue de façon profonde. Et donc, dans ce texte...
Alors, ça sonne pas très bien, c'est ça qui est dramatique, parce qu'on a l'habitude maintenant de dire « Quelle heure est-il ? Quel temps fait-il ? » Et quand on met le « L », c'est vrai qu'on a du mal à le dire, du coup.
Non, mais c'est joli de dire « Quelle heure est-elle ? »
Oui, remarque. Ouais. Ça plaira à Jeanne Chiral, qui est féministe, qui va adorer ce moment. C'est magnifique, dit-elle, est déjà installée à son piano, on va l'entendre dans un instant. Abdelatif Lahabi, vous rappelez aussi dans un poème qu'on a tous été des enfants. Dans un autre, vous confiez ne pas avoir vu passer le temps. Des vêtements de son enfance, dites-vous, regardez dans le miroir, on passe à l'observation de ses cheveux blancs en un rien de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ralentir le temps ?
Je ne pense pas qu'on puisse le ralentir. J'en ai dans cette course folle qui va de la vie à la mort. Et dans cette course, il faut tout faire. C'est-à-dire devenir un homme véritable, être au plus près de celle et ce qu'on aime, donner de soi-même, le don de soi, être présent au monde, ne pas cesser de nous émerveiller d'être vivant sur cette merveilleuse planète qui est la nôtre, et donc la protéger.
Vous avez peur de vieillir, vous, par exemple ?
J'ai pas l'impression d'avoir vieilli personnellement.
Non, ça c'est vrai.
Non, physiquement.
Depuis que je vous connais, vous êtes le même.
Physiquement, oui, mais ce qui me protège, c'est cette indignation viscérale qui a été toujours la mienne contre les injustices et donc contre les atteintes à l'intégrité morale et physique de l'être humain.
Bon, il y a des hommages aussi dans ce livre de poésie, Abdelatif Lahabi. Vous citez Abu Nuwas, grand poète arabe du 8e siècle, qui a combattu les sujets tabous de son époque. Salman Rushdie, victime d'un appel au meurtre pour son livre Les Versets Sataniques. Tahar Jaout aussi, écrivain algérien assassiné en 93 par des fanatiques. Et le petit Taylan Kurdi, enfant syrien de 3 ans, retrouvé mort sur une plage turque en 2015. Vous dites... dans un poème magnifique qui, je vous avoue, m'a fait pleurer. Et dès que j'en parle, ça m'émeut beaucoup parce que vous dites ne pas vous pardonner de ne rien avoir écrit sur lui à ce moment-là. Et vous terminez le poème en disant « Depuis lors, Eylan a grandi. Cette année, il finit sa maternelle. »
Oui, Écoutez, moi-même, quand j'ai essayé parfois de lire ce poème, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Effectivement, c'est un texte qui me bouleverse moi-même, l'ayant écrit. Puis, vous savez, les choses qui nous bouleversent, quand on est écrivain, c'est pas nécessairement tout de suite qu'on peut réagir, qu'on peut trouver des mots à mettre sur les mots A-U-I-X. Il faut parfois du temps. Il faut qu'il y ait il faut du temps pour cela. Oui. On ne sait pas à quel moment l'étincelle jaillit et on trouve ces mots-là.
Voilà, rien de plus fort que la poésie pour réfléchir sur la vie. Merci beaucoup Abdelatif Lahabi.
Ben merci à vous.
Merci à vous. Ce que poète désire, anthologie de poèmes pour la jeunesse, est paru aux éditions Rue du Monde. À noter aussi des extraits parus dans un petit livre qui traduit en arabe des fragments de poèmes, sorte d'haïku comme « Le sourire ne s'apprend pas, c'est un don » ou encore « Prends à la vie, mais ne l'épuise pas ». Bon, on continue à parler des mots qui révèlent en nous réflexions et souvenirs avec Jeanne Chéral qui publie son premier livre sur les mots qu'elle aime. Dans ce recueil, il y a le mot studio, ça tombe bien, elle est installée au piano dans notre studio. Ça va Jeanne ?
Ça va coussi-coussa.
Pourquoi coussi-coussa ?
Parce que ça m'émeut beaucoup le poème venez de lire, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant.
Non mais on a tous les yeux en vue, moi j'arrive pas à lire mon texte. Ah oui, ça va oui,
il faut que je chante, là.
Je suis désolé.
Bon.
Allez, vous allez donner toute votre énergie. Hein ah, je suis désolé, Jeanne.
On y va.
Bon, voici. Le feu aux joues, ça s'appelle en plus.
J'habite mon corps de petite fille, fines attaches de brindilles, coups des genoux griffés sérieux, cheveux mouillés à la piscine, planche à dessin sur la poitrine, boutons de nacre mystérieux. Le feu aux joues qui monte, qui vient toujours avec la honte qui vient toujours sans prévenir, et la colère qui cogne, colère d'enfant qui tourbillonne et s'évapore en un sourire. Et c'est ce corps que tu tiens dans tes bras, c'est encore et encore ce corps-là. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là. J'habite mon corps d'adolescent, timide grâce encore naissante, frange trop longue pour les yeux, porte forcée de ma cabane, voiture bélier sur mon dos d'âne, bouton de nacre douloureux. Le feu aux joues qui monte, qui vient toujours après qui vient toujours dans ces cas-là, et la colère qui cogne, saine colère de ma personne quand je repense à ce temps-là. Et c'est ce corps que tu tiens dans tes bras, c'est encore et encore ce corps-là. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là.
Jeanne Chéral, merci beaucoup Jeanne. L'énergie de l'émotion, vous voyez ? Magnifique. Venez vous installer. C'était Le Feu aux Joues dans notre studio en version acoustique au piano.
Les médias francophones publics.
Radio France. RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On ne s'est même pas dit bonjour. Bonjour Jeanne Kérad.
Bonjour Emmanuel.
Ça va mieux?
Oui, ça va.
L'émotion nous a saisis. Hein,
non mais quoi de plus beau que les pleurs d'émotion? Franchement, ouais. c'est vrai que c'est génial de vivre ça.
Bon, vous avez réussi à chanter. Moi, je suis toujours impressionné parce que c'est vrai que quand vous faites une interview, parfois on vous dit « Allez-y, maintenant allez au piano, vous allez chanter. » On l'a déjà fait dans d'autres émissions. Ouais. Là, avec l'émotion, vous y arrivez, c'est incroyable. C'est l'énergie comme ça de l'émotion.
Bon. C'est magique hein, la
ouais,
musique.
C'est magique. À 5 ans, je suis devenu terre à terre. C'est votre premier livre paru chez Point dans la collection dirigée par Philippe Delerme, qu'on retrouvera tout à l'heure. Que s'est-il passé à 5 ans, Jeanne?
Ah bah, j'en parle dans le livre. Enfin, bon, c'est un peu théorique, hein, le fait de dire que c'est à 5 ans, mais j'ai l'impression que dans la petite enfance, on a accès à une sorte de monde un peu idéal, un monde un peu métaphysique, et c'est peut-être quelque chose qu'on perd en grandissant.
Ouais. Alors, c'est un livre plein de souvenirs. Vous répertoriez les mots qui vous plaisent ou qui résonnent en vous. Le studio, je le disais, mais aussi la scène. Vous dites la scène, ça a de la gueule.
Oh bah oui, je le dis, d'autant plus en ce moment, ça nous manque tellement. Enfin, ouais. C'est un peu enfoncer une porte ouverte de le dire, hein, mais c'est vrai que
à ce point-là,
depuis un an, on est en suspension et la scène, c'est quelque chose. Enfin, vous parliez tout à l'heure du fait de se mettre à chanter comme ça. Enfin, il y a une sorte de, on est un peu au-dessus de soi-même quoi quand on est sur scène. Mmh.
Vous êtes passé comme ça du studio de votre vie étudiante, comme vous racontez, à des studios d'enregistrement feutrés. Vous pourriez vivre dans un studio aujourd'hui?
Oh, peut-être pas.
Je parle de l'appartement.
Dans un studio.
Celui
ça dépend
que
avec qui. Ça dépend avec qui, hein, parce que j'ai pas des gros besoins, mais on n'est pas forcément fait pour la promiscuité. Donc en famille dans un studio, non.
On passe du studio au cheval. Hein, c'est comme ça. Hein, votre livre, on passe d'un mot à l'autre. Le cheval qui pourrait être, selon vous, Jeanne Kérad, un idéal masculin.
Je parlais du mot parce que pour moi c'est un mot qui a une sonorité vraiment très très classe, très belle et très gracieuse. Cheval, c'est à la fois léger, fuselé et puis assez énergique quoi. J'aime beaucoup ce mot, j'aime beaucoup ce qu'il représente.
Et il y a une anecdote avec un prétendu fan qui a un lien avec ce mot cheval. Racontez-nous.
Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. Oui. C'est pas trop à ma gloire, mais c'est un gars qui était dans une soirée avec plein de gens. Donc il est arrivé vers moi en couvrant le niveau sonore, donc en parlant assez fort et en me demandant si j'étais bien Anne Cheval. Oui. Donc je lui ai dit oui, c'était trop drôle et il m'a demandé un autographe. Donc je lui ai signé amicalement Anne Cheval.
Oui. Il a jamais su qui c'était finalement.
Ah bah non, il a dû se demander qui était cette Anne Cheval.
Il y a une autre histoire aussi dans le chapitre du mot vampirisé avec une fan envahissante. Alors je ne sais pas si c'est une histoire inventée ou une histoire vraie, mais c'est terrifiant.
Ouais, c'est terrifiant. Bah,
c'est vrai.
Ce qu'il y a de super dans les livres, en fait, je trouve qu'on est toujours un peu à la lisière entre le réel et le fictif. Enfin, je découvre ça, en tout cas. Enfin, tous les textes de ce livre partent de choses que j'ai pu traverser, observer. Donc, c'est une histoire de vampirisation, comme il y en a beaucoup, hein, dans le.
Ouais, mais une fan, vous l'avez fait venir chez vous? Elle vous a envahi à ce point-là? Parce que là, c'est ça, l'histoire.
Oui, c'est une relation qui s'est développée et qui partait au départ d'une relation de fan à artiste. Oui, oui. Et puis qui s'est développée et qui m'a envahi tout simplement.
Et c'est allé jusqu'où?
Oh bah
j'ai pas envie d'en parler, je sens. Vous en parlez dans le livre.
Ouais, c'est vrai.
Vous allez me sortir, j'ai pas envie d'en parler, je le sens.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses où je suis plus à l'aise pour en parler dans des textes de chansons ou dans ce petit livre que dans la réalité. Ça m'est déjà arrivé hein, d'aborder des choses comme le désir de grossesse, par exemple. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas forcément envie de parler en média, par exemple, et ça m'a jamais gêné de faire une chanson là-dessus.
Ouais, c'est vrai. Bon, faudra lire le livre. Allez, on va voir les libraires avec la Belgique et la Suisse qui ont lu cet ouvrage. Ouais. Nathalie Clairin pour la Belgique.
Oui, Emmanuel. Moi, je suis rentrée dans le livre vraiment très facilement et je me suis vraiment beaucoup amusée tout au long. J'ai bien aimé devenir immédiatement complice de vos mots et de vos situations cocasses. On se promène sur ces mots choisis, on rebondit, on saute de l'un à l'autre, on se prélasse. C'est plein de références culturelles. C'est vraiment un cadeau fantastique que vous faites là pour la semaine de la francophonie.
Oui, c'est vrai que ça tombe bien et c'est pour ça qu'elle est là dans cette émission spéciale. Dominique Bressot pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est vraiment un cadeau, surtout pour une chronique, en fait. En reprenant simplement les mots de Jeanne Chéral, et surtout la signification qu'elle leur attribue, on peut dire que c'est un livre foutraque, mais sans rien acheter dans le ramasse-bourrier, carrément sexy, écrit par une vraie sorcière des mots. Bref, pour moi, Jeanne Chéral, vous gagnez le cocotier. Et surtout, vous donnez envie de vous imiter en jouant avec les mots, et ça, c'est très précieux.
Voilà, plein de mots qui sont dans le livre. Hein, pour ceux qui n'ont pas lu, parce qu'on va
mettre
comprendre.
La chiale.
Alors ça suffit maintenant, arrêtez de pleurer. Les mots valises vous énervent, Jeanne Chéral. Mais pourtant, vous en avez inventé un qui est plutôt pas mal.
Oui, bah, un petit mot valise que j'aime énormément, c'est le mot amitour, qui est une contraction, comme on dit dans les mots valises, entre l'amitié et l'amour, qui est cette zone grise entre l'amitié et l'amour.
Pourquoi grise?
Ça un mélange. Ça m'est venu comme ça.
On va faire un deuxième livre.
Ouais.
Bon, vous dites jamais avoir été à l'aise avec les surnoms affectueux. Et il y a le mot gros, donc, dans ce livre, qui est, selon vous, un surnom acceptable.
Oh bah ça c'est très personnel, hein. J'ai l'habitude d'appeler mon conjoint comme ça et réciproquement. Je pense que c'est une habitude du Nord-Est, de Nancy, il me semble. C'est quand on s'appelle gros. Enfin, je sais que dans le rap aussi, il s'appelle beaucoup
gros. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est, ça va gros.
Ouais, ça va gros. Voilà, exactement. Et je sais pas, c'est une façon de se parler qui est un peu dédramatisante, marrante. J'aime bien.
Bon, il y a une expression aussi avec le mot gros.
Ah, gros doigt.
Eh oui. Et ça vient de la Réunion.
Voilà. Bah, gros doigt, c'est une façon de dire quand une chose est pas très délicate, pas très élégante, c'est gros doigt, quoi. J'ai cassé tous mes alambics,
plein de ciguës, plein d'arsenic. Ah, vous chantez en plus.
C'est vraiment toute mon enfance. Hein. Ouais. La sorcière d'Émilie Joly.
Eh oui, la sorcière d'Émilie Joly. On pense à Philippe Châtel, qui est mort il y a un mois tout juste. Et vous parlez de ce mot sorcière, qui fait partie de ce recueil de textes, qui raconte la sorcière incarnée par Françoise Hardy dans le conte de Philippe Châtel.
Ouais, c'est je pense, la première sorcière à laquelle j'étais confrontée étant toute petite. Et c'est vrai que la sorcière, c'est une figure... on est très attaché aujourd'hui à la figure de la sorcière. Hein. Enfin, c'est, pour moi, c'est une femme libre par excellence, qui se réinvente, qui invente, qui crée. Et j'adorerais ce personnage, même si dans Émilie Joly, elle attend quand même le prince charmant. C'est un peu décevant quand même. Hein.
Oui, c'est vrai, pour une sorcière. On ne sera pas étonné de voir apparaître le mot féministe. Être féministe devient aussi naturel et nécessaire que respirer. Être féministe, c'est lutter contre ce décalage permanent, ce déséquilibre universel, cette rupture d'égalité qui hiérarchise l'humanité. C'est ce que vous écrivez, Jeanne Chéral.
Ouais, mais j'en profite juste pour revenir quelques instants sur la très belle manière qu'a eu Abdelatif Lahabi tout à l'heure de féminiser, enfin de prendre un féminin générique pour des expressions courantes comme elle pleut. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique et de la part d'un homme en plus de cet âge-là, c'est super d'avoir.
Il est très jeune, il l'a dit.
C'est vrai que c'est pour un bébé.
Il a 22 ans.
Ouais. Oui, le mot féministe, c'était un mot indispensable pour moi dans ce recueil de mes mots préférés.
Toujours et encore.
Oh bah ouais, ça fait des années que c'est un mot qui fait partie de moi, j'ai envie de dire.
On va terminer avec une belle histoire dans votre livre autour du mot parrain. Jean-Luc, un parrain hors du commun.
Oui,
c'est un peu à lui que vous dédiez ce livre, en fait.
Oh bah oui, en quelque sorte, oui, ça a été quelqu'un de très important pour dans mon enfance. C'était un adulte handicapé qui a vraiment fait partie du panel d'adultes. Enfin, on dit souvent il faut un village pour élever un enfant, mais je crois vachement à ça. Il a vraiment fait partie des adultes qui m'ont éduqué et le fait qu'il ait ce handicap mental, pour moi, le rendait un peu magique, quoi. Un peu magique, un peu comme un grand enfant.
C'est un parrain qui vous a construit aussi, qui a fait partie de votre construction.
Ah ouais, bien sûr, et je pense souvent à lui.
Merci beaucoup Jeanne Chéral.
Merci
vous allez
à vous,
rester avec nous. À 5 ans, Je suis devenu terre à terre est paru aux éditions Point. On sera en liaison avec Philippe Delerme d'ici 5-6 minutes avec vous Jeanne. Mais avant, la chronique des libraires.
La librairie francophone.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Moi, c'est un coup de gueule sur certains livres de poche qui sont de grands classiques et qui sont actuellement édités avec leur prix imprimé en grand, souvent dans une pastille, sur la couverture même.
Ah oui.
Au même titre que le titre ou bien le nom de l'auteur. Alors, on sait qu'un livre de poche, c'est pas cher, mais on n'a pas forcément envie de voir 2,50€ affiché.
Mais c'est vrai.
Moi, j'ai toujours eu une affinité avec le livre de poche. J'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque ou en faire un petit cadeau. Eh bien, là, c'est plutôt loupé.
Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, je l'ai constaté aussi, où on a le gros prix, 3€ ou 4$, inscrit sur le livre de poche avec des classiques. En plus, ça gâche tout. C'est honteux.
C'est horrible.
Honteux, horrible. Un coup de cœur au Canada, Katia Courteau.
Oui, Emmanuel, pour le titre « Ma maison tête », écrit par Vig aux éditions Fonfon. C'est vraiment un immense coup de cœur pour cet album parce qu'il aborde le trouble du déficit de l'attention, mais de façon tellement juste. On suit un petit garçon qui nous présente sa tête comme s'il nous faisait visiter plusieurs pièces de la maison, entre autres la fameuse salle des contrôles où il se passe, c'est le chaos, il se passe trop de choses. Vig a trouvé vraiment les mots justes pour parler du trouble du déficit d'attention. C'est génial.
Ma maison tête aux éditions Fonfon. Merci à vous, Katia. En France, un coup de cœur aussi, Thomas Hausser.
Ah oui, puis même plus qu'un coup de cœur, Emmanuel, un énorme coup de cœur, c'est pour le livre « Indice des feux ». C'est écrit par Antoine Desjardins, c'est un jeune auteur québécois et c'est publié à la Peuplade. Mmh. Et si vous voulez, ce sont 7 histoires qui sont émerveillantes et lumineuses. Alors, on rentre dedans en une page de lecture, ça interroge notre monde contemporain et puis un peu les mots de notre monde. Chaque histoire est une leçon de vie, donc voilà, un énorme coup de cœur.
Un énorme coup de cœur avec un libraire français qui porte un auteur québécois. C'est ça, la librairie francophone dans cette journée internationale de la francophonie. Merci Thomas. Enfin, on finit avec un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, alors encore un coup de gueule, encore sur l'auto-édition. Alors déjà que j'aime pas l'auto-édition, mais la nouveauté ces temps-ci, c'est que lorsque j'ai essayé sur demande de clients d'avoir ce genre de livre, surprise, on n'arrête pas le progrès, pas de remise pour les libraires. Ben voyons, alors on va se mettre à vendre des bouquins, mais en plus on va payer pour. Donc, soyons sérieux. Résultat, ce genre de livre n'a plus qu'à s'offrir les services d'Amazon, qui, en l'occurrence, sont loin d'être gratuits pour les naïfs voulant apparaître en tête des recherches sur le site.
Je rappelle qu'il faut acheter ces livres chez les librairies indépendantes et pas sur les grandes plateformes comme Amazon. Merci beaucoup, Dominique. Dans un instant, Philippe Delerme pour un livre apaisant et l'écrivain haïtien Néhémie Pierre Dahomé qui évoque la dette honteuse imposée par la France à Haïti. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. Voici le nouveau titre de Gaël Faye.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes. Tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper, chalouper.
c'était Gaël Faye avec Chaloupé.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Jeanne Chiral, comment ça s'est passé avec Philippe Delerme? C'est lui qui vous a édité?
Ben oui, ouais. C'est lui qui m'a fait cette proposition au départ.
Bon, il est en liaison avec nous. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour Emmanuel, bonjour Jeanne, bonjour tout le monde.
Bonjour Philippe.
Dans La Vie en relief, vous avez apprivoisé le temps. L'âge vous a assagi, Philippe, hein, j'ai l'impression.
Oh, assagi, je ne sais pas, mais on donnait le sentiment, oui, que les choses prenaient une ampleur particulière, voilà, ne se superposaient pas seulement, mais parfois se multipliaient aussi.
Bon, et puis il y a les petits bonheurs, une fois encore, quand vous étiez jeune, peut-être aujourd'hui encore, prendre le train tôt le matin, c'est absolument génial ça. Vous aimez ça, vous?
Bah oui, j'aime bien ça. J'aimais bien ça. Oui. Un petit peu avant un événement qui s'est passé, vous savez, vers chez nous, qu'on a appelé une pandémie. Mais c'est vrai que j'adorais comme ça partir dans la nuit le matin pour Paris, puisque c'était des rendez-vous un petit peu comme ça avec l'édition, avec la vide, avec les livres, qui m'a toujours beaucoup excité. Donc, et c'est vrai que traverser l'espèce de courant qui est juste à côté de chez moi, et puis se dire qu'on est comme voilà, on a beau avoir 70 ans, on est comme une espèce d'aventurier, le sac sur l'épaule, qui part pour Paris comme ça, c'est plutôt excitant.
Oui. Ah oui, vous levez tôt le matin comme ça, voir personne dans la rue, ça vous a plu, vous?
Oui, ouais. j'aime beaucoup me lever le premier, faire des choses très très tôt, très très longtemps. Quand j'étais prof, vous savez, j'écrivais entre 5h et 7h le matin avant de partir au collège, et j'ai gardé quelque chose comme ça. J'adore avoir fini ma journée avant de la commencer.
Mmh. Jeanne Chiral, vous aimez ça aussi, vous?
Je suis pas trop du matin, moi.
Ouais, moi non plus. Le Canada et la Belgique. On va commencer par le Canada. Ils ont lu votre recueil de textes, livre, je sais pas comment l'appeler. La vie en relief au Canada, comment ça s'est passé? Katia?
Ben, écoutez, je suis mitigée. Vous êtes, Philippe Delerme, évidemment un fin observateur de l'instant, un réel impressionniste littéraire, mais je crois en fait que vous n'écrivez pas pour moi. C'est vrai, je dois le dire, j'aime pas qu'on me tienne la main, et j'ai eu l'impression, pendant ma lecture, que vous me teniez la main, mais très très fort. Et au final, je me suis plutôt ennuyée.
Bien, en Belgique, elle n'est pas du tout d'accord, Nathalie Clairin.
Oui, moi j'aime assez bien qu'on me tienne la main, en fait. Je me suis dit, que serait la vie sans l'écriture? Eh bien, ce serait la vie sans relief. Et vous nous avez habitués à des descriptions virtuoses et jubilatoires des petits plaisirs de la vie jusqu'à présent. Eh bien ici, on trouve une dimension, je trouve, supplémentaire. Comme un archéologue, vous dégagez vos souvenirs importants et vous en faites émaner tant d'énergie et de chaleur qu'avec vous, passé et présent se rejoignent. Vous êtes vraiment un magicien pour moi, Philippe Delerme.
Un magicien, merci. Philippe.
Oui, bah écoutez, merci. Et puis, en fait, je tiens à préciser que j'ai jamais donné la main à personne au Canada jusqu'à présent. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pour l'instant.
Mais oui, mais on n'est pas d'accord toujours sur votre œuvre. Vous le savez, ça, Philippe Delerme. Il y a toujours eu des débats.
Oui, on va dire oui.
Mais oui, mais c'est bien, ça veut dire que vous ne laissez pas indifférent. Bon, vous faites philosophe aussi dans ce livre avec cette phrase qui est selon vous la phrase de votre vie. Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre.
Ben oui, c'est pour moi, c'est un sentiment que j'ai alors là depuis très très longtemps. C'est un sentiment que j'ai eu en écrivant un livre, un de mes tout premiers livres, et comme ça en étant traversé par la vue de la femme que j'aime et de l'enfant que j'avais, donc Vincent, mmh. Et puis ce sentiment que voilà, en les voyant comme ça un jour, à un moment précis, je traversais comme un coup de poignard par le sentiment que la vie serait jamais plus belle qu'à ce moment-là. Et j'ai toujours continué à penser ça et à penser que c'était une définition du bonheur qui semble négative et qui en fait extrêmement positif, parce qu'avoir quelqu'un, c'est quand même, voilà, c'est ça qui compte dans la vie, avoir quelqu'un. Ou quelques-uns, 3, 4, quelques-uns.
Mais on a peur de les perdre.
Bien sûr, bah oui. Mais dès qu'on est heureux, on est anxieux. Mais en même temps, c'est pour ça que la vie est forte et qu'elle est belle. Et que, bien sûr, le bonheur, c'est tout sauf d'être rassasié et quiet. C'est bien sûr d'être dans une espèce d'inquiétude permanente. Voilà.
Vous êtes un inquiet, vous, hein, Philippe?
Oui, et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai envie de solliciter des instants et de les vivre avec intensité, parce que bien sûr que j'ai aussi terriblement la peur de les perdre, c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que ça vient de là, en fait, hein. Votre histoire littéraire, elle vient de là. Okay, On va penser à votre épouse. On salue Martine, qui nous a aidés pour cette liaison, d'ailleurs. Vous rendez hommage à l'amour qui vous unit, votre épouse et vous. Et on va la saluer avec une musique, on va dire, que vous aimez particulièrement.
Étant un jour à court de fleurs, tu m'as comme ça offert ton cœur dans un papier sulfurisé avec une étiquette. Pas eu moyen de refuser, c'était pourtant pas ma fête. Ah, quel poison, quel embarras que d'avoir un cœur sur les bras, que d'avoir un cœur sur les bras.
En cette journée internationale de la langue française et de la francophonie, une pensée pour Anne Sylvestre, votre ami Philippe Delerme. Vous étiez venu d'ailleurs ici en parler. Vous citez ce titre dans votre livre.
Précisément sur, avec cette chanson que j'avais déclaré ma flamme à Martine en citant un extrait de cette chanson. Et d'ailleurs, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir proposer à Anne de faire un livre dans la collection Le Goût des mots, Coquelicot, qui était un livre magnifique et qu'elle a été heureuse de faire, qui était son premier livre. Elle avait plus de 80 ans. Et je suis fier aussi d'avoir accueilli. Il y a comme ça quelque chose qui ressemble un peu à la démarche, bien le très beau livre de Jeanne et qui est aussi un livre magnifique avec des mots. Il y a évidemment une parenté bien sûr et puis une qualité d'écriture dans le livre de Jeanne comme dans celui d'Anne, dont je suis très fier. Et moi qui ai toujours adoré la chanson, vécu avec la chanson, qui ai toujours chanté des chansons, je suis fier de voir que les chanteurs sont les gens qui écrivent parfois le mieux. Tout à l'heure vous parliez de Philippe Châtel qui vient de nous quitter.
Oui.
De temps en temps, j'ai des petits quatrains dans la tête de chanteurs. Il y en a un de Philippe Châtel que j'adore. À propos de l'Angleterre, il dit « Commander une Guinness dans un pub en acajou pour effacer la tristesse dans la mousse d'un poison mou. » Voilà ce qu'écrivait Philippe Châtel, qui a fait Émilie Jolie, mais qui n'a pas fait que ça, tant s'en fout.
Merci beaucoup, Philippe Delerme. Merci à vous, Jeanne Chéral.
Merci, merci
une
Philippe.
Une petite réaction, oui, forcément.
Bah oui,
merci, Jeanne, à bientôt.
Ouais, je t'embrasse.
La vie en relief est parue aux éditions du Seuil. À bientôt, Philippe.
Au revoir.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Némi Pierre Daumé.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Vous publiez votre deuxième roman Combat aux éditions du Seuil. Après Rapatrié, qui avait beaucoup fait parler de lui en remportant des prix littéraires, avec un sujet fort et bien exploré, l'exil, vous êtes né à Port-au-Prince et cette fois vous nous plongez dans l'histoire d'Haïti au 19e siècle avec un personnage, Ludovic Possible, qui devient notaire dans son village. Que veut-il faire pour son pays, ce Ludovic ?
Il veut d'abord faire pour lui-même la construction d'un lieu, d'une sorte d'établissement scolaire qu'il prédestine à une enfant en particulier. Alors il se trouve que je n'avais pas pensé, moi, que c'était Ludovic Possible, le personnage principal du livre. Pour moi, jusqu'à présent, il s'agit d'Aïda.
Oui.
Aïda, cette enfant conteuse, qui, à mon avis, sera, en tout cas pour moi, est le personnage du livre.
Alors, il y a beaucoup de personnages. Hein. Il faut savoir que c'est un livre qui foisonne de personnages. Vous évoquez aussi une étrange dette envers la France qui avait accepté de reconnaître l'indépendance d'Haïti et de renoncer à toute tentative de reconquête. C'est en 1825, sous Charles X, qu'est établie cette dette de 150 millions de francs or, une dette qui n'a cessé de plomber l'économie du pays.
Oui, le bon Charles X nous a effectivement fait ce cadeau de faire rater le 19e siècle à cette jeune nation et pays qui porte encore le poids lourd de cette dette. Vous savez, Emmanuel Kérad, il me semble a posteriori que ce livre répond à deux questions. Pourquoi Haïti est pauvre ? C'est une question à laquelle j'ai été pas mal confronté, malgré moi. Et pourquoi il y a autant d'écrivains ? Pourquoi vous êtes écrivain ? Cette dette fait partie de la réponse, s'agissant de pauvreté. Pourquoi je serais écrivain ? Un rapport avec la parole, comme l'a Aïda dans le roman.
Ouais. Mais alors c'est ça, hein, vos personnages, ils vivent à cette époque-là. Et cette dette, en fait, pour la payer, il a fallu faire des sacrifices. Et le président de l'époque va décider d'imposer des produits, de fixer des taxes. Et dès cette époque-là, au 19e siècle, les Haïtiens payaient plus d'impôts et de taxes que ne gagnaient d'argent. Et vos personnages, ils sont dans ce marasme-là.
Oui, c'est l'embargo territorial qui est le cadre du livre. Ceci dit, c'est seulement un cadre, hein. Les personnages restent très autonomes. C'est seulement un cadre qui porte la vie paysanne qui est la leur. Les personnages restent autonomes et sont en proie à leur destin particulier de personnage. Cette rencontre avec la grande histoire n'a jamais empêché le duel que constitue l'histoire de chacun des personnages, de Ludovic Possible contre son frère Balthazar Possible, de Aïda Possible contre son destin et le reste du monde.
Qu'est-ce qu'elle est devenue cette dette, Némi Pierre Daumé ? Elle a été payée au final ou ?
Oh, elle a été largement payée, largement. Mais je n'en sais pas plus que les économistes. Il me semble que Thomas Piketty l'évalue aujourd'hui à 28 milliards d'euros.
17 Alors, milliards, moi j'ai lu. Ça vaudrait 17 milliards d'euros aujourd'hui.
Là, je parle des chiffres de Thomas Piketty. Oui, mais comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas du tout économiste. Oui, non, et ce n'est pas mon sujet. C'est surtout un cadre d'embargo territorial qui explique le fonctionnement, pourquoi ces paysans-là ont dû rester des paysans, pourquoi le pays a dû, pendant le 19e siècle, rester un pays, comme on a appris à l'école, entre guillemets, essentiellement agricole.
C'est ça. Alors, Ludovic et Balthazar, effectivement, vos deux personnages vont se détester pour une histoire très particulière, une histoire de famille. Et il y a des scènes de combat de coq dans votre roman, avec Balthazar, ce demi-frère qui est très agressif. Et dans votre conte, il y a un coq. Alors c'est un conte, hein. Donc il faut bien préciser, parce que ce coq va venir habiter le sommeil des habitants de la plaine. Moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il représentait ce coq.
Étant appelé combat, ce roman marche beaucoup sur le duel dans les deux sens du terme. Sur le duel comme dualité, tout comme sur le duel comme fight physique, quoi. Comme, comment dire,
la bagarre.
Comme bagarre. Mmh. Et quoi de mieux pour illustrer la bagarre, ou même pour faire émerger la bagarre, que les formidables animaux qu'on appelle les coqs.
Ouais.
Vous savez, ces gladiateurs ailés qui, quand ils sont sur leur ring, ne reconnaissent plus et ne respectent plus rien ni personne. Franchement, dans le bestiaire de ce roman, à part les autres combats qu'il a pu y avoir, j'ai particulièrement pris plaisir à parler de combats de coqs.
Oui, j'ai vu. On a vu ça. On va voir les libraires ce qu'ils pensent de votre livre, Noémie Pierre Dahomé, avec la France et la Suisse. On commence par Thomas Auxerre en France. Thomas.
Oui, alors une lecture mitigée pour moi. Alors j'ai aimé votre belle écriture et puis le côté satirique de cette farce qui est vraiment bien menée. On voit plein de parallèles avec le contemporain et ça c'est assez saignant. Mais d'un autre côté, il est vrai que je me suis peut-être un petit peu perdu dans la forêt de personnages et puis peut-être aussi dans le rythme lancinant de cette histoire. Peut-être que ça n'allait pas assez vite à mon goût.
Dominique Bressou pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Non. En fait, j'ai eu un peu de mal au départ à rentrer dans l'histoire, malgré une curiosité mise en éveil dès les premières pages. Et puis j'ai réalisé qu'en écoutant simplement la voix du conteur, parce que je trouve que c'est quand même un conte qui s'était discrètement installé dans ma tête, il fallait se laisser simplement porter par cette magie qui nous fait ressentir aussi bien la dureté et l'injustice héritées du colonialisme que le destin extraordinaire des femmes chanterelles.
Noémie Pierre Dahomé, voilà, des avis mitigés, parce que c'est vrai que vous écrivez très bien, Noémie. Décidément, on est dans la poésie aujourd'hui, avec le Printemps des Poètes et la Journée Internationale de la Langue Française et de la Francophonie, mais vous mettez plus l'énergie dans la forme poétique de votre texte que dans l'exploration de l'histoire et de ses thèmes. Comme si vous vouliez que parfois, certains passages nous échappent un peu et qu'on ne comprenne pas tout.
Eh ben, pour pouvoir le lire deux fois. Et surtout à la deuxième lecture, achetez-en un autre exemplaire. Alors, j'ai entendu des avis différents, pas mitigés. Le premier avis, il était mitigé. Je suis très content que ce libraire va, du coup, le lire deux fois. Et le second avis, je suis plus d'accord. Moi, en le relisant, je me suis dit, c'est assez rapide. Après, c'est facile, comme c'est moi qui l'ai écrit, je sais plutôt quelque chose du livre.
Mais vous savez que vous êtes un poète, au fond de vous, Noémie.
Oh merci, je le prends pour un compliment.
C'est un compliment, c'en est un.
Je viens d'un pays où, quand on n'a pas écrit de poésie, on est un petit peu considéré, et à raison peut-être, comme cinquième roue de la carrosse littéraire. C'est-à-dire me dire que dans le roman, il y a de la poésie, oui, je le prends pour un compliment. Merci Emmanuel Kérad.
Non mais c'est ça, oui. Alors du coup, tous ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, imbriqués ? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dans ce tiraillement ? Parce que vous parlez de votre personnage féminin, qui est vraiment l'héroïne du livre, qui va devenir l'héritière, qui va arriver comme ça à réussir dans la vie alors qu'elle part de rien et qu'elle part surtout sans papa. On va pas tout raconter, c'est difficile pour moi de raconter sans tout raconter. Mais cette jeune fille-là, elle est dans ce traumatisme haïtien et en même temps, elle arrive à percer le jour, elle arrive à réussir quand même.
Oui, il y a beaucoup de personnages. J'aime ça qu'il y ait beaucoup de personnages. La littérature d'où je viens, plutôt d'inspiration marquésienne, je l'ai déjà dit, a souvent eu beaucoup de personnages, ça ne me dérange pas du tout. Alors, parmi ces personnages, cela me fait particulièrement plaisir qu'Aïda arrive à s'installer, parce que c'est une jeune fille de 12-13 ans, et parce qu'il y a les deux monstres, Balthazar possible et Ludovic possible, qui s'affrontent, c'est toujours intéressant de faire germer une fleur de Guernica dans la catastrophe des duels.
Quelle est la place de la francophonie en Haïti, Néhémie Pierre Dahomey, aujourd'hui? Est-ce que cette dette terrible imposée par la France n'a pas ruiné, à tous les sens du terme, les relations avec la France et avec la langue française?
Oula, un grand programme, à la fois linguistique et politique, je vais probablement vous décevoir.
Vous avez 30 secondes.
Je vais prendre 30 minutes. Je vais probablement vous décevoir parce que j'ai été éduqué en français et je le parle plutôt. J'écris en français. La place de la francophonie en Haïti aujourd'hui, vous savez, ça fait presque 10 ans que je vis en France maintenant. Je serais un petit peu mal placé pour répondre au côté politique de la question. Toutefois, il me semble que les livres continuent à être lus, les films à être regardés en français.
Ouais.
Et en cela, ne vous inquiétez pas, Emmanuel Kérad, vous aurez toujours des interlocuteurs quand vous irez à Port-au-Prince.
On est très écoutés, hein, à Port-au-Prince, on les salue d'ailleurs.
Ceci dit, il y a une belle émergence de la créolophonie. Mmh. Ça, c'est très positif parce que de plus en plus de livres sont écrits directement en créole haïtien et la langue se constitue de plus en plus depuis les années 1986. Hein, depuis 1986, il y a une grosse éclosion avec la libération de la radio et la présence de plus en plus prégnante du créole à la radio. Cela fait un grand bond de la créolophonie. Il y a une académie créole qui marche très bien. Ce n'est pas contradictoire avec la francophonie. Pour le reste, je ne sais pas si la dette a quelque chose à voir avec tout ça.
De souvenirs, peut-être. On garde toujours des traces du passé, des souvenirs.
Alors, souvenirs, quand on doit parler à une fille précisément pour draguer, il est très recommandé de le faire en français. Ça fait toujours son petit effet. Ceci dit, je suppose que maintenant, avec la belle poésie qui s'installe en créole,
oui,
les mots deviendront tout aussi doux et tout aussi apprêtés pour la faire.
Bon, on avait fait une émission avec vous à Port-au-Prince, vous vous souvenez, hein, dans la ville.
Je me souviens très bien.
On peut réécouter d'ailleurs sur Internet ce moment-là. Merci Néhémie Pierre Dahomey, vous êtes un grand écrivain. Vous allez devenir un grand écrivain, j'en fais le pari.
Merci Emmanuel Kérad, vous êtes un très grand animateur et vous allez encore le devenir.
Votre nouveau roman Combat est paru aux éditions du Seuil. À bientôt Némi, merci
allez,
beaucoup.
Au revoir Emmanuel.
On termine avec un titre numéro 1 dans un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui on écoute le chanteur Amr Diab qui est numéro 1 en ce moment en Égypte. صحيتي الشوق من غير معاك وسافرت لآخر البلاد والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق
سحري فيها قلبي داب واحتار يا صوت نبرت وحياة حبيت وعشقت صدى والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك
Un extrait de Ya Agma Eyoun de Amr Diab, numéro 1 en ce moment en Égypte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince et Philippe Duclos avec Élise Christophe à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Nicolas Julliard et Sophie Grécoucho en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada, Thierry Dupin était à la prog musicale. Le grand voyage continue la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon week-end à tous.